We don't attack Putin or Moscow.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Pierre.
Mais où se cache Vladimir Poutine ? On se pose la question cette semaine après que Moscou a accusé Kiev d'avoir voulu assassiner le président russe à coups de drone. On vous explique. L'image est saisissante, un petit engin volant, un drone, qui s'approche des toits du Kremlin en pleine nuit et qui explose, abattu par des systèmes de défense. Ça s'est passé mardi soir. Immédiatement, les autorités russes accusent l'Ukraine d'avoir voulu éliminer Vladimir Poutine. Kiev dément toute implication, on vient d'entendre le président Zelensky marteler qu'il n'y est pour rien. Que s'est-il passé ? Vladimir Poutine était-il vraiment menacé ? Beaucoup de questions se posent aussi sur l'opportunité et la véracité, surtout, d'une telle attaque en plein préparatif des fêtes patriotique du 9 mai et d'une probable contre-attaque ukrainienne. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec vous, Nicolas.
Eh bien, alors, on va voir qui est à l'origine de ces survols de drones au-dessus de Moscou. On va en tout cas évoquer les différentes hypothèses. On va aussi vous raconter que Vladimir Poutine, en réalité, ne dort jamais au Kremlin, qu'il y avait donc très peu de chances qu'il puisse être touché par ce possible attentat. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer où et comment il vit généralement. Et puis, tout cela survient dans un contexte très particulier puisque l'on attend une contre-offensive ukrainienne, la contre-offensive ukrainienne du printemps annoncée depuis longtemps.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC.
Nicolas Poincaré.
Pierre Courade.
Moscou a ouvert une enquête pour terrorisme, mais plusieurs hypothèses restent encore aujourd'hui sur la table, Nicolas.
Oui, alors, plusieurs scénarios sont possibles. D'abord, l'hypothèse que défendent les Russes, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un attentat organisé par les Ukrainiens dans le but de tuer Vladimir Poutine. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, celle des Ukrainiens, qui disent pas du tout, ce n'est pas nous, et ça peut donc être qu'une provocation, inquiétante, qui aurait pour but de légitimer une éventuelle riposte russe, par exemple, les Russes qui tireraient sur le palais présidentiel à Kiev, en disant vous avez tiré sur le Kremlin, on tire sur Kiev, donc une provocation russe, ça c'est la deuxième hypothèse.
C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la fausse bannière, c'est ça, c'est une attaque sous fausse bannière, c'est le terme militaire pour désigner ces fausses attaques, pour accuser l'adversaire finalement.
Voilà, c'est ce que les Ukrainiens appellent donc une mise en scène, une manipulation ou une fausse bannière comme tu le dis. Et puis alors, troisième hypothèse, eh bien ce serait ni les Russes ni les Ukrainiens, mais possiblement des opposants en Russie, par exemple des ultras qui chercheraient à faire une provocation pour pousser Vladimir Poutine à aller encore plus loin. Voilà les trois hypothèses qu'on peut envisager.
Ce que l'on sait en revanche, c'est que Vladimir Poutine ne se trouvait pas au Kremlin au moment de l'explosion des drones.
Et pour cause, parce qu'il n'y est jamais en réalité, et tout le monde le sait. Ce qui pose question, effectivement, ceux qui auraient organisé cet attentat savaient pertinemment qu'ils avaient très peu de chance de toucher Vladimir Poutine. D'abord parce que le Kremlin est immense et tombé sur l'endroit où il aurait pu se trouver en pleine nuit était très difficile. Mais surtout,
plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Je crois,
le Kremlin, on s'y perd. On s'y rend, on s'y déplace à l'intérieur en autobus. C'est pas du tout l'Élysée. Moi, je me souviens d'avoir été souvent au Kremlin dans les années 90, quand il y avait à l'époque le Soviet suprême au début des années 90 qui se réunissait. Les députés prenaient des autobus pour rejoindre à l'intérieur du Kremlin, la salle du Congrès. Alors, le bâtiment qui a été touché, ou en tout cas qui était le plus proche de l'endroit où le drone a été intercepté, c'est ce qu'on appelle l'ancien Sénat, qui servait de Sénat au 19e siècle, et dans lequel, effectivement, se trouvent les bureaux du président. À l'époque, moi, je me rendais souvent quand c'était Boris Yeltsin qui avait ses bureaux à cet endroit-là. Ça donne sur la place Rouge, c'est donc juste derrière ces murailles, juste de l'autre côté du mausolée de Lénine, tout près de l'endroit où Lénine donc, est enterré. C'est effectivement l'endroit qui a été touché et bien le bureau de Poutine, mais Poutine ne s'y trouvait pas.
Et Poutine ne s'y trouvait pas parce qu'il ne dort jamais au Kremlin, tu le disais. D'ailleurs, il entretient toujours un mystère sur le lieu où il se trouve, une sorte de paranoïa permanente.
Oui, alors notamment grâce à deux bureaux complètement identiques qu'il a fait construire. Un dans sa résidence qui se trouve à Novo-Ogario, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Moscou, on va en reparler. Et puis l'autre à sa datcha, qui est la datcha des anciens premiers secrétaires du Parti communiste, au bord de la mer Noire. noir à Sochi, et il partage l'essentiel de son temps entre ces deux endroits. Et il a fait construire deux bureaux parfaitement identiques, avec le même décor, assez froid. C'est un bureau principal, des grands écrans géants sur sa gauche, très peu d'ameublement. Ce qui fait que, eh bien, presque tous les jours à la télé russe, on voit Vladimir Poutine en train de travailler, ou en visioconférence, ou bien avec les généraux de son armée. On voit ces images, mais on ne peut pas savoir où c'est. C'est soit à Novogario, au Gario, tout près de Moscou, soit à Sochi, à 1600 km de là. Donc, c'est voilà, une façon de faire qu'on ne sait pas où il est. Mais sa résidence principale, depuis plusieurs années, presque depuis qu'il est arrivé à la présidence, c'est effectivement Novogario. Alors là, on est à 25 km à l'ouest de Moscou. C'est au milieu des bois, une immense résidence qui avait été construite à l'époque des tsars au 19e siècle, avec une sorte de petit château rococo un peu médiéval construit au milieu. C'est ultra sécurisé. Il y a des murailles de 6 mètres de haut, des systèmes de défense antiaérienne, donc peu de chance effectivement d'arriver à toucher là-bas avec un drone. Et puis tout le confort pour le président. Il a une grande salle de judo. J'ai un copain qui a eu l'occasion de l'interviewer, un journaliste français. Il se trouve qu'il était aussi judoka Yeltsin. Poutine lui avait proposé d'aller faire quelques prises sur son tatami. Donc il a sa salle de judo, il a une piscine, il a un héliport qui lui permet donc de se rendre en hélicoptère en quelques minutes seulement au Kremlin et à Moscou lorsqu'il veut y aller. Il a des écuries avec des chevaux, il se fait de temps en temps filmer en train de faire du cheval à l'intérieur de cette immense propriété.
C'est vraiment le cœur du pouvoir finalement, plus que le Kremlin.
Exactement, c'est là où il vit. Plus le temps passe, plus c'est là qu'il se trouve. Alors on ne sait jamais combien de temps il passe au bord de la mer Noire et combien de temps il passe là, mais en gros, entre ces deux résidences, c'est effectivement l'essentiel de son temps. Alors il se l'est fait attribuer à vie, cette résidence. C'est-à-dire que, en fait, la constitution russe prévoit que quand on quitte la présidence, on a le droit à une résidence pour le reste de ses jours. Et comme Poutine, on le sait, a laissé une fois la présidence à son premier ministre Medvedev, qui a occupé la présidence pendant 4 ans avant de lui refiler la place. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait attribuer nouveau Ogario à perpétuité. Donc si jamais un jour il devait quitter le pouvoir, ce qui n'est pas sûr, mais si jamais un jour il devait quitter le pouvoir, il garderait cette magnifique propriété.
Alors beaucoup de doutes sur cette attaque de drones, même si c'est la première fois que deux drones atteignent le Kremlin. La Russie dit que d'autres drones ukrainiens ont pu franchir la frontière et se rapprocher de Moscou. C'est quand même à 500 km des frontières ukrainiennes. Donc pour lancer un drone depuis l'Ukraine, c'est vrai que
il y a des drones
une certaine distance.
Il y a des drones qui peuvent facilement couvrir 500 km, mais ce sont des drones beaucoup plus gros que ceux que l'on a vus sur les images au-dessus du Kremlin. Là, c'était des petits drones qui, d'après les spécialistes, ne peuvent pas parcourir plus de 30 ou 40 kilomètres, qui donc forcément ont été lancés depuis la banlieue de Moscou. Alors, ça peut être des Ukrainiens infiltrés en Russie, ça ne désigne pas forcément des Russes, mais en tout cas, l'hypothèse de l'armée ukrainienne qui, depuis son territoire, parviendrait à atteindre le Kremlin, cette hypothèse-là n'est pas crédible.
L'armée ukrainienne qui, elle, se prépare sur le terrain, sur son sol, à une contre-attaque, c'est ce qu'on appelle la fameuse contre-attaque du printemps que l'on attend depuis quelques jours. Est-ce qu'elle est prête, cette armée ukrainienne ?
Alors, c'est ce que disent les Ukrainiens. Le ministre de la Défense ukrainien dit « on est absolument prêt, on n'attend plus d'armes des Occidentaux et de l'OTAN, plus de façon considérable. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que l'essentiel a été livré et l'OTAN, effectivement, dit que 98% de ce qui avait été promis en termes de blindés, en termes de tanks aux Ukrainiens ont été envoyés. Donc, les Ukrainiens disent « on est prêt, cette contre-offensive devrait avoir lieu. Ce qu'on ne sait pas, c'est où et quand, et tout le monde attend un petit peu comme au moment du débarquement en 44. On sait que les Américains vont débarquer, mais on ne sait pas où ni quand. C'est un petit peu ce qui se passe aussi en ce moment.
Alors, et là aussi, il y a une question de météo, comme pour le débarquement.
Alors, on parlait beaucoup du printemps en disant qu'il fallait qu'il y ait eu le dégel et puis qu'on passe le dégel pour qu'il y ait moins de boue. Enfin, tout ça sont des... C'est pas très, très, très convaincant. Les Ukrainiens, en réalité, attaqueront quand ils quand ils le voudront, où ils le voudront et quand ils seront prêts. Et on ne sait pas, d'ailleurs, ça peut être aussi une intox, hein, de dire attention, on va attaquer. Et puis finalement, ils peuvent juger qu'ils ne sont pas prêts. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont effectivement tout l'hiver préparé des troupes, qui sont un peu des troupes qui ont été gardées en réserve ces derniers mois pour cette offensive. On parle de 50 000 hommes, d'une douzaine de brigades, donc de 40 000 hommes chacune, qui ont été formés essentiellement, en tout cas 9 sur 12 de ces brigades ont participé à des entraînements à l'étranger, c'est-à-dire en Pologne, en Allemagne ou en Angleterre. Bon, les opérateurs des canons César ont aussi été formés dans le Var, en France, au camp de Juers. Donc on sait que l'armée ukrainienne a été vraiment formée par les Occidentaux depuis un moment, et ce sont ces troupes fraîches, entre guillemets, qui devraient participer à cette contre-offensive redoutée par les Russes, attendue par les Ukrainiens, et dont en réalité, on ne sait rien à l'heure où on parle. En gros, depuis un an, depuis le mois de mai dernier, le front n'a pratiquement pas bougé et on est dans une sorte de statu quo, c'est-à-dire de guerre de tranchées, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'on est comme en 14-18, avec des combattants sur le front, comme à Barout en ce moment, qui se font face, qui sont dans des tranchées et qui attendent. Alors, la comparaison avec la guerre de 14-18 est peut-être un petit peu osée, parce qu'il s'est passé un siècle depuis, mais enfin, en 14-18, on sait qu'on allait perdre énormément d'hommes pour gagner autour de Verdun ou du fort de Douaumont des tout petits territoires pour progresser de quelques centaines de mortes, de mètres. On envoyait à la boucherie des centaines de milliers de soldats. Bah là, c'est ce qu'il faut espérer qu'il ne se passera pas. Mais c'est un peu ce qui se passe depuis un an, cette guerre de tranchées, ce face-à-face qui se poursuit en attendant cette possible contre-offensive.
C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas.
À la semaine prochaine Pierre.
Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin.
Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.